il est passé du 93 à la NASA. C'est un parcours de folie. Donc on l'accueille aujourd'hui. Alan Petre, tu peux rentrer. Donc Alan qui va partir à la NASA en janvier.
Salut.
Belle réussite quand même. Ouais. On va voir tout son parcours aujourd'hui. Première question, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment dans le domaine de l'astronomie ?
Alors moi je dirais que j'ai deux domaines. Non, en fait j'en ai trop. Juste l'astronomie ?
En général, genre ça peut être l'aérospatiale, la cosmologie et tout.
Je dirais que ce qui m'intéresse le plus, si je dois citer d'abord un domaine, c'est l'exobiologie, l'étude de la vie, mais en dehors de la Terre, tu vois. Aussi bien dans le système solaire, donc en l'occurrence, comme tu sais, dans le système solaire, on a des satellites de géantes gazeuses comme Titan, Encelade, Europe, qui peuvent potentiellement, on pense, voilà, potentiellement abriter la vie, ou sinon aller plus loin dans la galaxie et chercher des exoplanètes comme les plus de 5000 qu'on a découvert aujourd'hui et voilà, chercher des traces de vie extraterrestre, des planètes habitables en dehors du système solaire. Donc je dirais ça. Sinon, il y a la cosmologie, tout ce qui est étude voilà, du Big Bang, des galaxies lointaines, les
Lachites. Ah oui, c'est vrai que c'est...
Ouais, ça aussi, ça m'intéresse. Mais en fait, je suis intéressé par un peu tout. Et aussi, forcément, l'ingénierie spatiale, tu vois. Et je dirais que ouais, c'est aussi un domaine qui m'intéresse et c'est le domaine dans lequel j'ai fait mes études. Donc forcément, ouais, j'ai un intérêt pour ça.
Et t'as aussi l'exploration spatiale ou pas, un peu ce truc-là?
Donc tout ce qui est plutôt vol habité, astronaute, et aussi même rover au final. Clairement, ouais, c'est un domaine aussi qui m'intéresse, c'est sûr. Forcément, le vol habité, ça fait rêver.
En vrai, t'as un peu tout.
Ouais, en fait, voilà, tout m'intéresse et c'est pour ça que d'ailleurs je suis dans ce domaine parce que vraiment, j'ai pas de. Il y a vraiment rien qui ne m'intéresse pas.
Et comment tu t'es intéressé par ça au début, par l'astronomie et tout?
D'où c'est arrivé, tu veux dire?
Ouais.
Alors, c'était quand même fou. L'anecdote est folle, c'est que. En primaire, tu vois, moi je suis originaire du 93, donc de banlieue parisienne, donc forcément, tu sais, on va dire, t'es un peu soumis à la pollution lumineuse.
Ouais, c'est clair.
Et quand tu veux regarder.
Et tout, voilà.
Quand tu regardais le ciel nocturne, forcément, t'es pas dans les meilleures conditions. Donc je me souviens qu'en CE2, on avait fait une sortie scolaire. D'ailleurs, ma mère s'en souvient aussi, donc c'est fou quand même. Et du coup, voilà, on a fait une sortie scolaire qui était une sortie liée à l'astronomie, tu vois. On s'était éloigné, on était allé en Seine-et-Marne, on était parti un peu loin quand même, on avait observé le ciel et ça m'avait choqué parce que c'était la première fois que je voyais le ciel un ciel aussi pur, tu vois.
La première fois que tu vois, souvent, c'est incroyable.
La première fois.
Tu t'en rends pas compte, mais...
Mais c'est fou, tu vois. Et franchement, juste de voir, tu sais... Je pense pas qu'on voyait non plus tout ce qu'on pouvait parce que, tu sais, il y a aussi un temps pour que ton œil s'adapte à l'obscurité. Donc, voilà, on n'a pas pu non plus tout voir vraiment très bien, mais on voyait vraiment des choses incroyables, tu vois. Tu peux voir... Même, tu sais, quand le ciel est vraiment dégagé, tu peux voir des satellites... Tu vois, qui passe, tu peux voir l'ISS, tu peux voir des étoiles filantes, enfin. Et moi,
ça a été un peu le déclic.
Ça a été le déclic. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais moi, je veux.
Incroyable. Et ça me fait rire parce que j'ai un peu le même truc. Toi aussi, c'est en regardant le ciel que. En fait, ça fait vraiment, tu sais, tu regardes le ciel et ça te révèle ta passion et tout, mais c'est un peu ça, genre.
C'est ça. Mais c'est clairement ça. Et moi, ça a créé un déclic, tu vois. Et après, je me suis documenté, j'ai lu des livres. Au collège, du coup, quand je suis entre collège, genre, toi, 2-3 ans après, j'ai rejoint le club d'astronomie du collège. Enfin, c'était ça.
C'était bien ça, les clubs d'astronomie. J'en ai jamais fait. Je me suis
toujours pas ça.
Non. Mais c'est bien, du coup.
C'était incroyable. Vraiment, on faisait du coup des sorties, tu vois. Des sorties, on allait.
J'en avais pas, mais j'aurais trop voulu.
Je me souviens, on allait en Seine-et-Marne pour observer aussi. Et c'était incroyable, tu vois, vraiment.
Petite sortie de télescope et tout.
Sortie de télescope. On avait un télescope au club, tu vois. Ouais. C'était top. En fait, ça m'a permis d'entretenir la passion. Et du coup, c'est top. Fin...
Est-ce que, du coup, tout au long de ton parcours, même maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un, une personne qui t'inspire vraiment aujourd'hui?
Alors, il y en a plusieurs. D'abord, je dirais qu'aux États-Unis, une fille indienne qui vient d'Inde, en fait, et qui est partie aux États-Unis pour travailler, qui était aussi passionnée par le spatial, tu vois. Elle est partie aux États-Unis pour travailler, faire un doctorat. Donc, elle a obtenu un master en Inde, il me semble, et après, elle est partie aux États-Unis pour faire un doctorat lié à l'ingénierie spatiale. À l'issue de ça, elle a réussi à intégrer la NASA, et elle est devenue, après, astronaute de la NASA. Et cette fille, elle s'appelle Kalpana Chawla et c'était une astronaute pendant tout ce qui est mission des STS, navettes spatiales, tu vois. Malheureusement, elle est morte sur un accident de navette spatiale, tu vois. Donc c'est une fin un peu tragique, mais en tout cas, c'est un exemple pour moi parce que voilà, elle est partie elle a tout quitté pour aller aux États-Unis pour vivre son rêve, tu vois. Et au final, elle a réussi, tu vois. Après, en France, bien sûr, il y a Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, c'est la référence, forcément, parce que voilà, c'est un ingénieur, il est passé par une formation d'ingénieur, tu vois, comme moi. Mm. C'est aussi un pilote, c'est aussi voilà, un astronaute, c'est bien entendu quoi après. Donc, c'est sûr que c'est un exemple. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine et qui ont Thomas Pesquet, pour exemple, en tout cas, en l'occurrence, en France.
Pour voir un peu si tu connais, tu t'y connais bien en astronomie, on va faire un petit test de connaissances. Alors, on va mettre un chronomètre. Si tu peux mettre un chronomètre de 1 minute, je vais poser des questions. Soit tu passes, ça fait un peu vraiment Hugo Décrypte.
Ça fait Hugo Décrypte.
Ça fait Hugo Décrypte de fou. J'ai carrément pris le concept. C'est pas grave. Mais attends, je sais pas s'il fait exactement ça. En gros, je vais te poser des questions, tu vas devoir répondre. C'est pas par oui ou par non, mais une réponse classique, la plus courte possible, parce que t'as un temps.
Ok.
Et si tu sais pas, tu passes.
Ok, vas-y, ça marche.
On va voir si t'as la meilleure note.
Oh, j'ai peur.
Les questions sont pas dures du tout. Combien on compte de satellites naturels à la Terre ?
1.
À quelle distance sommes-nous du Soleil ?
149,6 millions de kilomètres.
C'est quoi le moteur du premier étage de la fusée Ariane 6 ?
Du premier étage ? Vulcain 2.1.
La vitesse nécessaire pour échapper à l'attraction gravitationnelle de la Terre ?
11,2 km par seconde.
De quoi est composée l'atmosphère de Vénus en grande partie ?
Dioxyde de carbone.
En quelle année sommes-nous allés sur la Lune ?
1969 jusqu'à 1972.
Vrai ou faux, la Terre est plate ?
La Terre est plate, oui, c'est vrai.
Vrai ou faux, le temps est ralenti par un trou noir par rapport à une personne extérieure.
Oui, c'est vrai.
Cite 3 types de trous noirs.
Trou noir stellaire, trou noir supermassif, trou noir... Trou noir... Ah, attends, stellaire, supermassif... Trou noir... Ah non, je l'ai pas.
Quelle est la vraie couleur du Soleil ?
Blanc.
À quelle distance se trouve l'exoplanète la plus proche ?
4,2 années-lumière.
Ok, on fait les dernières questions quand même ?
Ouais, on les fait quand même.
Quelles sont les 2 sondes majeures qui orbitent autour du Soleil pour l'étudier ?
Parker Solar Probe et Solar Orbiter.
Grâce à quel lanceur Thomas Pesquet est allé dans l'espace pour la deuxième fois ?
Deuxième fois ? SpaceX Falcon 9.
Quel âge a notre univers ?
13,7 milliards d'années.
Qu'est-ce qu'on observe au plus loin dans notre univers qui a été émis 380 000 ans après le Big Bang ?
Des galaxies en formation.
Vrai ou faux, il y a déjà eu de la vie sur Mars.
Faux.
Ok. Et franchement, la Terre est plate. Non, la Terre est ronde.
Ah, Terre est ronde ?
Ouais, je suis désolé de te l'apprendre.
Mais non.
Si. En fait, c'est parce qu'il y a eu des tests.
Mais moi, je croyais qu'on tombait dans le vide au bout d'un moment. Ah, ok. Ouais, non, tranquille, ok. Non, mais ok.
Je te le dis.
Ok, je...
En vrai, tu pourras te renseigner et tout.
Je préviendrai la NASA, du coup.
Préviens-les. Et surtout, tu peux te renseigner sur des posts Facebook.
Ouais.
Qui sont partagés par des gens et tout, un peu comme ça.
Ok, génial, merci.
Beaucoup d'informations très sûres.
Merci.
Évidemment, tout ce qu'on dit est faux, que ce soit bien clair. Le troisième type de trou noir, alors t'avais les trous noirs primordiaux ou intermédiaires.
Primordiaux, tu sais que je l'avais. Primordiaux, je voulais le sortir, mais je me dis non. Mais primordiaux, je voulais le sortir.
Mais en vrai, je savais que c'était pas énormément ton domaine. Donc
oui.
C'est pour ça que je me suis dit.
Mais primordiaux, je voulais le sortir, mais je me suis dit, imagine, c'est une connerie, il va sauter ma gueule, tu vois.
Et c'était le fond diffus cosmologique. Au plus loin dans notre univers.
Ah, le fond, oui, le fond diffus cosmologique, oui. Okay.
Mais sinon, et voilà. Et pour la vie sur Mars, en soi, faux.
Moi,
faux,
moi, je pense pas.
Ouais, d'ailleurs, ouais.
La vie sur Mars, est-ce que Mars a déjà accueilli la vie ?
Est-ce que, sous forme bactérienne et tout.
Alors, il y a eu des lacs, tu vois, en l'occurrence, Curiosity, Perseverance, ils sont. Il y a Perseverance, je crois qu'il est sur le cratère G0. Et. Curiosity, c'est Gale, je crois.
Ça, je sais pas, mais G0, je crois.
G0, c'est Perseverance, et Gale, c'est Curiosity. Mais est-ce qu'il y a eu la vie ? Ça, je pense pas, tu vois.
Même avec les molécules organiques qu'on a un peu.
Ouais, même avec les molécules. Parce qu'en soi, des molécules organiques, tu vois, je pense que tu peux en voir dans des mondes qui sont pas forcément, tu vois, qui ont pas forcément été habités, tu vois. Donc, tu vois, c'est le genre de molécules, tu vois, les molécules organiques, t'en as aussi dans les comètes. Tu vois, peut-être que c'est une comète qui a amené ça, et tu vois, on sait pas. La vie dans le système solaire, j'y crois pas.
Ah ouais ?
Non. Dans le système. Ailleurs,
même
sur. Sur Titan, Encelade, Europe, non, j'y crois pas, tu vois. Ailleurs, oui. Mais en tout cas, j'y crois plus pour Europe, par exemple, que pour Mars.
Alors, quel genre d'élève t'étais à l'école primaire ? Tu nous as un peu dit que t'étais un peu passionné par l'astronomie déjà dès SM2, mais avant ça.
J'étais un élève. J'aimais bien rigoler quand même. Okay. Je dis pas, j'étais pas l'élève qui faisait n'importe quoi, tu vois. Mais j'ai bien rigolé. J'étais un peu tête en l'air. Ça, okay. Mes parents, c'est ce qu'ils aimaient trop me dire. Ouais, t'étais en l'air. Enfin, tu vois, c'était vrai, en vrai. J'étais vraiment tête en l'air, c'est vrai. Je le suis encore un peu aujourd'hui. Mais j'étais quand même un élève voilà, qui écoute un peu en classe, qui essaye d'apprendre, tu vois, qui a toujours voulu apprendre. Voilà, j'étais pas non plus l'élève modèle, mais j'étais pas non plus l'élève qui. Un gros perturbateur, tu vois.
Retrace ton parcours en partant du bac jusqu'à dernièrement l'obtention de ton diplôme.
Moi, en fait, ce qui a fait que. Il y a des gens qui parlent un peu de moi, c'est parce que mon parcours est assez atypique en fait. Après mon baccalauréat donc scientifique que j'ai eu en 2017, j'ai fait un an d'une formation qui ne me plaisait pas. Parce qu'en fait, en terminale, tu vois, c'est le moment où tu vas choisir un peu ton orientation, ton parcours, ce que tu vas faire après. Et moi, j'ai eu des profs et une conseillère d'orientation qui m'ont dit en gros que ouais, l'aérospatial, tu veux le faire, c'est bien, mais c'est pas un domaine où on te verrait vraiment potentiellement réussir parce que c'est sélectif, c'est difficile d'accès, c'est dur, tu vois, en termes juste théoriques, tu vois.
Ça t'a un peu démotivé, du coup ?
Du coup, ça m'a démotivé. En plus, sachant que j'avais pas non plus des notes catastrophiques, tu vois. En maths, j'avais peut-être 14 de moyenne, tu vois. J'étais dans le top de la classe,
oui,
je m'en sortais, quoi.
C'est correct.
Et forcément, tu sais, même si t'as une passion, parce que je pense qu'ils se rendaient pas compte d'à quel point j'étais passionné, tu vois. Forcément, tu sais, tu parles pas forcément à tes profs de manière vraiment très personnelle. Tu sais, quand t'as une passion. Ça te donne envie, mais quand tu entends ça, forcément, tu sais, ça peut démotiver. Quand tu es jeune, surtout que tu n'as pas d'expérience, ça peut démotiver. Moi, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, ça m'a un peu pas démotivé, mais voilà, je me suis dit, bon, je pourrais garder cette passion à côté, mais je ne pourrais pas faire mon métier. Donc, je me suis rentré dans une formation en gestion des administrations, première année après le bac. J'ai pas du tout aimé. Et je me suis dit, en fait, mon métier, ça va être plus de 40 ans de ma vie, j'ai pas envie de faire un truc qui me plaît pas, tu vois.
Tu m'étonnes, t'as qu'une vie.
C'est ça, je me suis dit, ça va être plus de 40 ans de ma vie, donc autant faire un métier qui me plaît. Donc c'était une année où j'ai fait du marketing, de l'économie, de la gestion, enfin des trucs qui peuvent plaire à d'autres, mais moi, en l'occurrence, ça me plaisait pas, tu vois. Donc après, voilà, j'ai eu un petit électrochoc, et je me suis dit, mais en fait, t'as une passion depuis que t'es petit, ouais, faut que tu fonces et que tu n'aies pas de regrets. Parce qu'au moins, même si je réussis pas, au moins, j'aurais pas. En gros, j'aurais au moins avoir eu le mérite d'essayer, tu vois. Tu vois, ça fait pas de moi quelqu'un qui est mauvais, tu vois. Ça fait juste quelqu'un qui a essayé et qui a essayé de se donner les moyens de réussir. Donc, je me suis réorienté dans un autre DUT, génie thermique et énergétique, à l'UT de Ville-d'Avray, qui est situé à Ville-d'Avray, à l'Université Paris-Nanterre. Donc ça, forcément, ça m'a aidé parce que j'avais un pied dans un domaine qui était plus lié à l'aéro, tu vois, aéronautique, aérospatiale, donc avec des matières qui étaient appliquées à ça. J'aimais beaucoup.
Dès que t'es arrivé, tu t'es senti dans ton élément.
Voilà, c'est ça. C'était dur au début parce que tu sais, j'ai fait un an sans faire de maths et de physique parce que j'ai fait un an de DUT-GEA avant. Donc un an sans faire de sciences techniques.
T'avais beaucoup perdu.
J'avais un peu perdu, ouais. mais ça va, franchement, je me suis vite habitué. J'ai travaillé énormément, je me suis vite remis sur pied. Juste, voilà, cette période-là, c'était quand même compliqué parce que mes parents, ils n'avaient pas forcément les moyens financiers de m'aider, tu vois. Donc je devais travailler les week-ends. Donc samedi et dimanche, je travaillais. Et du lundi au vendredi, j'étais quand même loin de l'UT. Quoi. Je mettais plus de 2 heures pour aller à l'UT et 2 heures pour revenir chez moi. Donc c'était réveil le matin à 5 heures, tu pars à l'UT à 6 heures, tu rentres après le soir, il est 21 heures. Le lendemain, tu te réveilles à 5 heures, donc tu n'as même pas le temps de réviser ou tu manges et tu vas dormir. C'était relou, c'était fatigant, mais vu que j'avais cette passion et tout, je me dis, mais ouais, là j'ai envie d'y aller. Tu vois. Et c'est ça qui m'a fait tenir en fait, parce que j'étais vraiment. Voilà, je me suis dit, c'est pas pour rien que c'est celui-là. Et voilà, donc ensuite, après ce DUT-là, en deuxième année, j'ai postulé au concours des écoles d'ingénieurs. Et je voulais faire une école d'ingénieurs dans l'aérospatiale en alternance. Pourquoi ? Parce que justement, vu que mes parents n'avaient pas les moyens de m'aider, je voulais faire de l'alternance.
Une expérience en plus et puis de l'argent.
Exactement, donc avoir une expérience en plus et être un peu indépendant financièrement. Tu vois. Ouais. J'ai postulé dans plusieurs plusieurs acteurs en fait du domaine aéronautique et spatial en France, donc Thales, Airbus, Safran, Ariane en l'occurrence. Et j'ai eu la chance d'être pris chez Airbus, Safran et Ariane, tu vois.
Incroyable.
Déjà être pris dans 3 entreprises, c'était déjà un truc de fou, tu vois.
Ouais, ouais.
Déjà être pris, c'était déjà une.
Mais t'étais pris parce que t'avais de bons résultats ou.
Alors j'avais des bons résultats même en DUT, mais au-delà de ça, j'étais tellement motivé parce qu'en fait je savais que j'étais, on va dire, j'avais bien réussi mon concours d'école d'ingénieur, tu vois. Et je savais que j'avais bien réussi les entretiens. J'avais pas encore eu la réponse, mais je savais que j'avais bien réussi. Et je me suis dit, là, il y a moyen que je rentre dans une école d'ingénieur dans l'aérospatiale. Qui l'eût cru il y a 2 ans de ça, tu vois. Donc j'étais tellement content et je me suis dit, je vais postuler à fond, je vais tout faire, tu vois. J'ai d'abord été pris chez Safran et Airbus et Ariane, j'attendais la réponse. Parce que de base, moi, je voulais Ariane, vu que je suis plus dans le spatial, tu vois. Safran et Airbus, c'est plus lié à l'aéronautique. Donc j'ai dit oui après à Ariane et j'ai eu la réponse. J'ai eu la réponse d'Ariane, j'ai dit oui à Ariane, j'ai eu la réponse de l'école m'a dit oui.
Enfin, là, t'as pu commencer à te dire, vraiment,
c'est possible.
Ouais. Là, tu en fait, commencer à vivre ton rêve.
Exactement. Là, en fait, quand j'étais pris chez Ariane, même quand j'étais pris à l'école, en fait, tu vois, je me suis dit, mais en fait, c'était possible. Ok, mes profs, ils m'ont un peu découragé, mais en fait, c'était possible, tu vois. J'avais les capacités de le faire. Je me suis dit, mais en fait, la NASA, ça peut être possible, alors que je m'y attends pas aussi, tu vois.
Et tu dis, autant tenter.
Voilà, exactement, je me dis, autant tenter. Exactement. Donc, en fait, je me suis lancé dans l'école d'ingé. On doit faire un stage à l'étranger pour devenir ingénieur en France officiellement, tu vois. Donc, j'ai fait une expérience à l'étranger en Floride, à UF, University of Florida, donc dans un labo d'astrophysique. Et donc, j'ai travaillé sur tout ce qui est nébuleuse ionisée en milieu interstellaire. Donc, voilà, tu vois, nébuleuse d'Orion, nébuleuse tout ce qui est région à hydrogène. C'était top. Et voilà, après mon stage, je suis revenu. Je me suis dit, voilà, l'excès d'audace, je me suis dit, bah, vas-y. Foutu pour foutu, on tente la NASA.
Mais là, à cette époque-là, quand tu as commencé tes études, tes parents pensaient quoi de ça, d'aller dans un domaine qui était assez complexe,
ouais.
Compliqué d'accès?
C'est ça. Moi, mes parents, en fait, ils m'ont jamais découragé. Si j'avais intégré une formation liée à ça dès le début, une formation d'ingénieur dès le début, ils m'auraient soutenu, tu vois. Mais ouais, ce qui m'a vraiment surtout mis une petite claque, c'était vraiment ces professeurs-là qui m'ont dit que ça n'allait pas être possible, pas mes parents. Mes parents, ils m'ont toujours soutenu. D'ailleurs, par contre, au niveau de ma réorientation, quand je voulais quitter le GEA pour aller dans un autre DUT qui me plaisait mieux, mon père n'était pas trop pour, alors que ma mère et ma sœur, tu vois, elles m'ont dit, bah, si c'est vraiment ce que tu veux faire, bah, fonce. Tu vois. Et au final, même moi, en fait, du coup, je les écoutais. C'est ce que je, de toute façon, dans tous les cas, c'est ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, bah, je vais en faire un peu qu'à ma tête et je vais y aller.
Du coup, est-ce que c'est un message un peu... Parce qu'en vrai, ça apporte un peu un message. C'est suivre ses rêves et pas laisser une personne...
C'est ça. C'est ça. Et je pense que c'est
le... Ou quoi,
ouais, c'est totalement ça. Et en fait, je pense que c'est surtout pour ça que ça a un peu parlé de moi. C'est parce qu'il y a un message derrière, tu vois. C'est de dire, regardez, il s'est réorienté. Il a travaillé les week-ends, il a fait l'alternance, donc il avait deux logements, il faisait des allers-retours, enfin tu vois.
On n'a rien sans rien, mais faut bosser pour...
C'est ça, exactement. Et je pense que c'est ça qui, surtout qui fait parler, quoi. C'est vraiment mon parcours.
C'était quoi les prérequis? Enfin, est-ce qu'il y a des prérequis pour les gens qui veulent aller dans ce genre d'école-là et travailler dans l'aérospatiale ou être cosmologiste et autres? Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que les études, c'est compliqué? Est-ce que les maths, c'est important?
L'école, moi, que j'ai intégré, le parcours que j'ai intégré, c'est un parcours post-prépa, pas post-bac. Donc quand je dis post-prépa, c'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir un bac plus 2, donc que ce soit DUT ou prépa intégré parfois, pour arriver directement en cycle ingénieur, donc arriver en troisième année. Tu vois. Donc il faut un bagage quand même avant. Et on va dire qu'au niveau des prérequis, il y a un peu différentes passerelles. Soit on peut avoir un bagage théorique, donc dans ce cas on fait une classe préparatoire. Tu vois, ceux qui font une classe préparatoire, ils ont plus un bagage théorique, tu vois. Ils font beaucoup de maths, beaucoup de physique. Ou soit on fait comme moi, on fait un DUT, donc c'est pas les mêmes prérequis. Et dans ce cas, un DUT, c'est vraiment plus pratique, plus technique, tu vois.
Comme t'as dit Macron, pourquoi la NASA et pas l'ESA ou le CNES
Ah oui, je t'attendais celle-ci. oui, c'est vrai que Macron m'a envoyé un message sur LinkedIn, enfin, répondu à mon post sur LinkedIn, il m'a dit « Après la NASA, est-ce que tu irais pas à l'ESA ?» Bon, en soi, mon rêve, tu vois, c'était d'intégrer la NASA. Là, on va dire que ça se réalise. Mais, tu vois, il y a réaliser son rêve et avoir une expérience, et il y a faire carrière. Et je dirais que réaliser son rêve et avoir une expérience à la NASA, c'était mon rêve, donc j'y arrive, c'est cool. Mais pour faire carrière et vivre aux États-Unis, c'est autre chose, tu vois. De toute façon, j'ai tous mes potes ici, ma famille ici, tu vois.
T'as quand même envie de...
Et puis je suis français, je suis né à Paris, j'ai grandi en banlieue parisienne, enfin tu vois, je suis français, j'ai envie de contribuer au spatial de mon pays, de mon continent. Tard, oui. Pourquoi pas en tant qu'ingénieur et pourquoi pas en tant qu'astronaute.
Ah ouais, tu veux...
Ouais, c'est sûr, ouais, un centre de l'ESA, être le prochain centre de l'ESA, c'est sûr que c'est un objectif, ouais.
S'il y a une prochaine sélection, là,
Ah, je postule direct. Enfin, là, en vrai, j'ai pas l'âge requis, tu vois. Faut avoir 27 ans minimum, mais la prochaine sélection, d'ici le prochain appel, je devrais, je pense, avoir l'âge requis. Donc, je postulerai, ouais.
Mais je te le souhaite tellement.
Ouais,
si,
merci,
si arrive, c'est... Et ce serait quoi ce que t'aimerais faire en tant qu'astronaute?
Aller sur Mars.
Alors justement, moi, Mars, c'est que moi, j'ai un problème avec Mars.
Ah oui, je touche quand t'aimes pas Mars.
J'ai un problème avec Mars, moi.
Il y a pas de vie sans Mars, il y a rien. On va rien faire
moi,
là-bas.
Moi, j'aime pas Mars. Hein.
Tu veux faire quoi?
Moi, Mars, c'est ce qui me fait flipper. C'est quand, imagine, t'es sur Mars, on te dit, regarde, c'est la Terre, et tu vois un petit point. Tu vois pas la Terre, tu vois juste un petit point. Mais un petit point, tu sais que c'est à des millions de kilomètres, tu vois. Un petit point, mais moi, je... Non. J'ai pas signé pour ça. Moi, je signe pas pour ça. Non, non. La Lune, oui. Parce que la Lune, tu vois, vas-y, tu vois la Terre. Tu vois la forme. Tu vois la Terre,
t'as
vois...
T'as pas envie d'être...
Trop loin.
De te sentir... Mais en plus, je pense, en vrai, n'importe qui serait isolé.
Ouais, mais il y en a, je suis sûr, il y en a, ils diraient oui. Hein. Il y en a, c'est des fous, ils vont dire oui hein, pour aller sur Mars sans problème.
En vrai, c'est vrai que ça.
T'inquiète,
ça doit faire un truc.
Mais ça doit faire un truc, tu vois. Tu dis, ça, c'est la Terre, tu vois un petit point. Tu dis, là-bas, il y a tous mes potes, toute ma famille, là-bas, dans ce petit point-là. Non, moi, c'est bon. Je signe pas pour ça. Moi, la Lune, c'est très bien. On est moi sur la Lune, tu vois. Je fais mes petites affaires, je reviens, c'est top, tu vois. Le truc, c'est que Mars, je pense que ce sera un aller simple, tu vois.
Ouais.
Donc, c'est ça aussi qui me.
Bah, aller simple, tu fais un retour aussi. Il n'y a pas un voyage de 2 ans.
C'est ça, c'est qu'en gros, le truc, c'est que quand Mars est au plus proche de la Terre, tu as 6 mois de voyage.
Et après,
tu dois attendre pour que les orbites elles se rejoignent. Donc, tu dois attendre, je sais pas, hein, je crois que c'est 1 an et demi, 2 ans pour que les orbites se rejoignent. Donc, c'est un peu relou. Déjà, juste être dans l'ISS, tu vois, dans la. C'est quoi, c'est la cupola qu'ils appellent ça? Cupola, je crois.
Je connais pas les.
La cupola, c'est en gros, je crois que c'est ça, ce stade, non?
Ah, là où tu vois la Terre.
Exactement, la vitre, tu vois, la vitre où tu vois la Terre. Tu vois, juste.
Ah, mais ça.
Déjà,
je pense que c'est le rêve de beaucoup de gens.
Mais ça serait la folie, tu vois. Ce serait la folie.
On parle souvent en mal du 93. On en entend parler partout, les faits divers. Plein de trucs comme ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que tu penses que du coup, venir du 93, est-ce que c'est vraiment compliqué d'arriver au stade où t'en es, travailler à la NASA? C'est quoi ton avis par rapport à tout ça?
Alors, en fait, le 93, vu que dans les chiffres, c'est le département le plus pauvre de France, et qu'il y a plus de, je crois, tu vois, 250 cités, bah forcément, tu sais, les gens, quand ils entendent le 93, ils disent « Ouais, il vient du 93, c'est... » C'est une raca, il vient d'une cité, enfin tu vois. Bah oui, ok, c'est un département où forcément il y a des difficultés, tu vois. Moi je suis de Villemomble, vas-y, autour il y a quoi? Il y a Bondy, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, ça c'est, on va dire, ma zone du 93, c'est la zone sud du 93, donc c'est pas, on va dire, c'est pas la plus craintive, tu vois. Et voilà, c'est pas parce qu'on vient du 93 qu'on peut pas réussir et que, enfin tu vois, voilà. Après voilà, c'est sûr que c'est un département où il y a un taux de criminalité, même... Pas que dans 93, tu vois, tu vas dans 94, tu vas à Marseille, à Lyon, enfin tu vois, il y a un peu partout en France.
Oui, parce que c'est vraiment le 93 qui est ciblé forcément, alors bah...
Alors qu'en soi, oui, il se passe des choses, mais...
C'est pas que là,
tu vois, il y en a partout. Exactement, voilà, il y en a partout et c'est les mêmes choses, tu vois. C'est pas forcément plus grave dans 93, juste il y en a peut-être un peu plus, tu vois, mais voilà.
Donc il y a pas moins de chances de réussir parce que tu viens de 93.
Non, clairement non. En fait, on va dire, ce qui bloque en fait au niveau du 93 dans la banlieue parisienne, c'est... Je pense, je dirais déjà, l'influence que les autres peuvent avoir sur toi. Parce que, tu sais, quand t'as des potes qui font des choses qui sont pas forcément bonnes, entre guillemets, tu vois, bah, si t'es influençable, tu peux vite les faire toi aussi et voilà, faire des choses qui sont pas forcément good. Après, c'est ça, mais je dirais que c'est aussi, comme t'as dit, les stéréotypes en mode « Ouais, il vient du 9-3, c'est une racaille, on va pas le prendre », ou tu vois. Après, voilà, c'est juste... Dans le 93, forcément, il y a beaucoup de familles où on n'a pas forcément les contacts, entre guillemets, tu vois. Par exemple, moi, dans l'aérospatial, dans ma famille, il n'y a personne qui est dedans. Je suis le seul qui est passionné par ça. Donc, j'avais aucun contact, tu vois, nulle part. Donc, c'est un peu plus difficile quand tu viens du 93 pour réussir, on va dire, entre guillemets, tu vois. Mais c'est possible. Et juste, il faut peut-être un peu plus travailler. Mais voilà, mais c'est possible et c'est faisable, quoi. Il n'y a pas... ce que les profs t'enseignent, que tu ailles dans 93 ou dans n'importe quel département de France, les programmes, tu vois, c'est plus ou moins les mêmes. Donc en soi, la connaissance, elle est là, en fait, tu vois, dans tous les cas.
La connaissance, si tu n'y as pas forcément accès, tu démènes.
Ouais, c'est ça, ouais, exactement.
Tu trouves, il y a Internet et tout.
Exactement, ouais.
Question simple, oui, non, est-ce que tu as un télescope chez toi?
Quand j'étais petit, malheureusement, j'avais pas les moyens, enfin, mes parents, ils n'avaient pas les moyens de me prendre un télescope parce que je voulais vraiment, tu vois, si je voulais un télescope, c'est un gros télescope. Ouais. Mais la chance que j'avais, c'est que j'étais dans un club d'astronomie. Et j'étais, du coup, mon école en avait, donc forcément, j'ai pas eu besoin d'acheter un télescope.
D'accord. Ouais. Un petit. Nexstar 127 CLT.
Ok.
Un petit truc. Je sais pas si tu vois.
Si, je crois que je vois, oui.
Mais d'ailleurs, petit test. J'ai des petites photos.
Oh là 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 là.
C'est pas très dur. Est-ce que tu sais?
Nébuleuse du crabe.
Non, oui.
Andromède.
Ouais.
Vénus.
Okay.
Vénus.
Tu vas bosser là-dessus. Oui. Donc
Orion. Les Pléiades.
Bah, tu vois. Il avait peur au début quand je l'ai dit. Non, j'ai pas mis des trucs durs, justement. Ouais. Ça va, t'as bien réussi.
Bah oui.
Mais du coup, là, t'as reconnu Vénus. Tu vas faire quoi à la NASA en rapport avec Vénus?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, Vénus, elle est située comme la Terre dans la zone habitable par rapport au Soleil, tu vois. Le problème, c'est qu'elle a des grosses ressemblances. C'est une planète rocheuse comme la Terre, qui fait à peu près la même taille, voilà, densité et tout. Donc il y a des ressemblances qui sont notables, Mais il y a aussi d'énormes différences quand tu étudies plus en profondeur les planètes, tu vois. Sur Terre, on a une température moyenne en surface au niveau de la mer, on va dire, de 15 degrés et une pression atmosphérique de 1 bar, tu vois, 1,013 pour les puristes, mais on dit 1 bar. Et du coup, sur Vénus, tu vois, on a en surface 470 degrés.
C'est la planète la plus chaude.
C'est la plus chaude.
Ouais. Alors que Mercure est plus proche du Soleil. Mais la plus chaude, c'est Vénus, tu vois. Donc ça prouve que c'est une dinguerie, tu vois.
De l'effet de serre, c'est...
Effet de serre, exactement. Au niveau de la pression atmosphérique, on est à, je crois, environ 90 bars, 88, je crois.
Et ça correspond à... comme si t'étais dans un océan terrestre.
Exactement, comme si t'étais en profondeur dans un océan terrestre, tu vois, un océan terrestre, mais en surface. En fait, c'est-à-dire que... On s'imagine pas, parce que du coup, c'est comme si t'es debout sur Vénus, tu vois, et ton corps se disloque direct. Parce que là, il tient pas la pression, tu vois. Tes tympans, ils explosent, tu vois. C'est comme quand t'es dans l'océan, trop en profondeur, c'est ça, tu vois. C'est ça, et en fait, on essaie de comprendre comment Vénus en est arrivée là. Sachant que du coup, il y a des ressemblances, tu vois. Et on essaie de se dire, ouais, est-ce qu'il y a un événement dans l'histoire de Vénus qui a fait que qu'elle en arrive là. C'est ça, en fait, le but de cette mission qui s'appelle Veritas, qui va être lancée par la NASA et qui est du coup sous tutelle du JPL. Et en gros, le Jet Propulsion Laboratory, c'est un laboratoire de la NASA qui est en charge de tout ce qui est robotique dans le système solaire. Donc cette mission de la NASA qui s'appelle Veritas, elle va servir à étudier l'atmosphère de Vénus, essayer de comprendre tout ça. Et en l'occurrence, voilà, moi, mon rôle, ça va être de préparer cette mission-là à travers des domaines de recherche, tu vois, de recherche spatiale. Donc essayer d'étudier tout ce qui est les volcans de Vénus et leur impact sur l'effet de serre.
Et toi, tu vas gérer ça sur l'analyse de données ?
Exactement, analyse de données des missions qui ont déjà été faites. Et préparation des prochaines missions. Donc analyse de données, en gros c'est de la mécanique des flux atmosphériques. Voilà. Plus précisément, pour en dire pour ceux qui connaissent, c'est de la mécanique des fluides atmosphériques.
Déjà c'est trop intéressant, j'adore le truc. C'est quoi tes objectifs personnels quand tu seras à la NASA ?
Ce serait déjà de m'épanouir, je dirais. De m'épanouir, tu vois, et de d'être heureux dans mon travail. Je pense que ça va vraiment être le cas, tu vois, mais avant de viser des objectifs, on va dire professionnels sur le travail, ce serait déjà d'être heureux. De kiffer, tu vois. Et ça, c'est important. Après, dans le monde du travail, c'est sûr que avoir les meilleurs résultats possibles, essayer de préparer les missions de la meilleure des manières possibles, tu vois, c'est comme ça, hein. C'est comme ça qu'on contribue à l'avancée des missions. Donc, forcément, ce serait d'avoir des résultats. Je me prépare depuis des semaines, je me prépare à ça, tu vois.
Et t'as un peu de stress ou tu sais déjà, tu connais, t'es sûr de toi ?
J'ai pas de stress parce qu'en soi, manipuler des outils, je vais faire des choses qui sont liées à ce que j'ai fait déjà avant, tu vois, à l'école, et j'ai rien, donc forcément...
T'auras l'habitude déjà.
J'ai déjà une petite habitude, donc forcément, voilà, j'ai moins de stress par rapport à ça. Je suis plus content, j'ai plus hâte d'y être, plutôt que de stresser sur comment ça va se passer. Et... Juste, c'est un rêve, tu vois. Genre, le JPL, c'est l'un des centres de la NASA les plus connus, parce que voilà, il y a eu des rovers Curiosity, Perseverance qui sortent du JPL, Voyager, Cassini, enfin, tu vois, plein de missions légendaires qui sortent de ce centre, donc... C'est surtout ça, en fait, c'est surtout l'excitation, en fait, avant le stress.
Tu vas rester combien de temps là-bas ?
Donc là, je vais rester minimum 6 mois. Mais ils m'ont dit clairement que c'est prolongeable, que je pourrais rester un peu plus. Donc je sais pas, je verrai en fonction de, je vais en Californie, je vois comment ça se passe. Et après là-bas, je jaugerai, tu vois.
Niveau travail, ça va être comment ? Ça va être intense ? Ça va ? Non,
je sais pas trop. Je pense que ce sera un peu comme Ariane. Donc ça va être des journées longues, ok, mais pas non plus du 7h-22h, tu vois. Ça va être intense, ça va être long, mais de toute façon, je vais être
à la... préparé, si c'est pour ça.
Et puis même, je vais être à la NASA, mec. Donc, donc enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ouais. Je peux travailler pendant des heures.
T'auras pas la flemme de finir à minuit.
Si je finis à 20h, 21h, je rentre à 21h, 22h, tu vois, c'est pas mon problème. Enfin, ça me dérangerait pas, tu vois.
On va passer au débat d'aujourd'hui. Alors, c'est le petit débat de fin. On entend souvent dire que l'exploration spatiale, c'est quelque chose qui vaut trop cher, pour rien. Tu sais, il y en a qui disent que... On ferait mieux de solutionner les problèmes qu'on a sur Terre, type pauvreté, climat, etc., plutôt que de investir de l'argent dans l'exploration spatiale qui serait soi-disant inutile. C'est quoi ton avis par rapport à ça ?
En fait, les personnes qui disent ça, souvent, c'est pas des personnes qui s'intéressent vraiment en profondeur à l'exploration spatiale. Parce qu'en gros, l'exploration spatiale, faut savoir que ça aide sur énormément de choses. Juste de construire des fusées, certes, ça coûte cher, tu vois, mais sans les fusées, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de météo, tu tu vois, le climat, ça fonctionne aussi par les satellites, tu vois. Donc sans l'avancée, tu vois, tout ce qui est exploration spatiale, tout ce qui est développement de technologie spatiale, ok, ça coûte cher. Mais sans ça, faut savoir qu'on peut pas vivre en fait. Enfin, on peut pas. En tout cas, on peut vivre. On n'aura pas la vie qu'on a aujourd'hui. Tu vois. Ça, en fait, c'est important de comprendre scientifiquement, tu vois, d'où on vient, de comprendre ce qui nous entoure, tu vois, parce que ça nous aide à voilà mieux connaître notre corps humain, à nous, et aussi à tout ce qui est d'un point de vue scientifique, en fait, tu vois, tout ce qui est vraiment. C'est intéressant scientifiquement de savoir ce qui se passe autour de nous, comment, d'où on vient, comment...
Comprendre là où nous sommes.
Voilà, donc moi je pense que c'est un intérêt scientifique, mais c'est un intérêt aussi, du coup, entre guillemets, vital, tu vois, dans notre société d'aujourd'hui. Malheureusement, ces personnes-là qui disent ça, bon, c'est entendable, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut aussi leur dire que sans les fusées, sans les satellites, sans l'exploration spatiale...
C'est pas un truc qui est sans intérêt.
Voilà, c'est pas sans intérêt et ça sert à quelque chose, tu vois. Par exemple, les missions qu'ils font dans l'ISS, tout ce qui est études dans l'ISS, tu vois, ils font des travaux pratiques dans l'ISS. Ça aide à mieux comprendre la vie sur Terre, tu vois. Ils font plein de choses par rapport à ça.
C'est bien. Mais écoute, moi, c'est un peu pareil. Hein. Je pense que c'est pareil. Les gens qui disent ça ne sont pas forcément intéressés par l'espace. Ce qu'on peut comprendre, moi, je pense que le plus important, c'est de comprendre de là où on vient, de comprendre où on est. Enfin, je trouve ça... Je sais pas, il y a des gens qui sont pas forcément fascinés par ça, mais tu sais, tu as envie de comprendre comment la Terre est apparue, tu as envie de comprendre s'il y a d'autres formes de vie, si on est seul. Déjà juste la question, est-ce qu'on est seul dans l'univers, tu vois,
c'est une question de fou. Ça, c'est une question de fou, ça.
C'est des questions comme ça, tu vois, où je pense que c'est pas forcément primordial à notre survie. On pourra survivre quand même sans Terre. Je veux dire, c'est toujours intéressant d'un point de vue scientifique et même pour l'homme, pour l'être humain, de comprendre ça.
Mais clairement, donc, clairement. Oui.
Je pense que non, c'est pas inutile. Après, pour ce qui est des problèmes sur le climat, sur tous les trucs comme ça, c'est pas parce qu'on met de l'argent dans l'exploration spatiale que ça prend tout et ça prend plus rien pour la pauvreté. Ou...
Mais tellement, mais tellement.
Enfin, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Mm. Les deux peuvent se faire en même temps. Faut juste. Enfin, je pense que l'exploration spatiale, c'est pas le problème principal de gérer la pauvreté et tout ça. Après, c'est vrai que ça fait un contraste quand tu vois, genre. Et la pauvreté dans les pays du Sud ou des trucs comme ça, et tu vois, un peu plus dans le Nord, ils envoient des rovers sur Mars. Mais je pense que c'est pas comparable, tu vois. Enfin, genre, c'est comparable niveau peut-être argent et tout, mais c'est un pays développé, c'est un pays pauvre.
Ouais, c'est pas comparable. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Clairement, c'est
les deux secteurs, c'est différent, et je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Et puis après, c'est juste politique et problème géopolitique. Enfin,
et même, je pense, corrigez-moi, mais je pense que ces gens n'ont pas le nombre d'inventions
qui ont été faites.
Juste
les couches.
Ouais.
Les couches, c'est l'exploration spatiale. Hein. Les couches, c'est la NASA qui ont mis ça pour les astronautes.
Les couches
de bébés. Ouais. Qui ont mis ça pour les astronautes pour, tu vois, juste les couches, c'est sans le spatial, il n'y a pas de couches, tu vois.
Les gens n'imaginent pas tous les jours ce qu'ils utilisent, qu'il y a la base de l'exploration spatiale, qu'il y a une solution pour un problème qui n'est pas sur la Terre.
Exactement. Ouais. Mais de fou, il n'y a pas exactement ça. Hein. Là, j'ai que les couches qui me viennent en tête, mais il y en a plein.
Sauf qu'on a pas micro-ondes, par exemple.
Ouais, micro-ondes, oui.
C'est
ouais.
Bien, j'adore.
Tu ouais. Viens ici, hein. On sort là.
On va faire l'interview ensemble en fait. C'est ça, on va se faire tacler dans les commentaires TikTok et tout.
Ça se trouve, ouais, mais bon.
On a un avis qui est nul.
On est deux gros puristes du spatial.
Bah, c'est vrai qu'on a un avis très tranche, enfin très tranché.
Ouais.
D'un côté, mais bon, ouais, voilà. Je pense que tout est entendable.
Bravo. Yes, merci le boss.
Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour.
Oh, j'aurais dû poser la question. Les explorations spatiales, mais. Interstellaire.
C'est mort.
Avis tranché, c'est mort.
Voyager, qui est, on va dire, la sonde la plus loin, tu vois, l'une des plus rapides, bon, bref, sans parler de parcours sur la probe et tout, tu vois.
100 000 km/h,
il lui reste 26 000 ans s'il veut atteindre Proxima Centauri, ouais. À cette vitesse-là. C'est mort. En tout cas, aujourd'hui, c'est mort. Dans 2000 ans, peut-être, dans 2000, 3000 ans, peut-être.
Tu penses qu'on existera encore dans 2000 ans.
Mais déjà, en fait, déjà, on n'existera pas, mais même, en fait, si on veut vraiment voyager dans l'espace, il faut voyager au moins à la vitesse de la lumière. Et en plus, quand je dis au moins, sachant que la vitesse de la lumière, c'est la plus rapide.
Après, oui, mais après, ton temps est relatif, du coup, en vrai, si tu dépasses la vitesse de la lumière, bah, ton voyage, pourquoi il est instantané.
Quand tu dépasses, mais tu peux pas dépasser.
Non, tu dépasses pas. Mais quand tu. Imaginons que t'es à 99%.
Oui.
Ton temps à toi, il est dilaté, mais par rapport à une personne extérieure. Mais du coup, ton temps propre, il est comme instantané. Donc si tu voyages vers une planète à la vitesse de la lumière,
ouais.
Tu vas arriver là-bas.
En 4 ans pour ceux qui sont là.
En 4 ans pour ceux qui sont là.
Mais,
voilà,
mais pour toi. Mais pour toi.
Bah, je pense que c'est presque un centaine.
Enfin, si c'est ton temps propre.
que t'ailles à Proxima Centauri qui a 4,2 années lumière ou que t'ailles sur Andromède qui a 2 millions d'années lumière, ce sera pareil.
Parce que la vitesse de la lumière te ralentit. Si t'es à 100%, ton temps il est. Enfin, t'as plus de temps qui s'écoule. Mais c'est instantané à 100%.
Donc peu importe la distance, ce sera pareil. Tu vois, c'est ça aussi. C'est ça qui me dérange. Tu vois, le spatial, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu vois, après.